Plié. Voilà. Deux lectures pour nous introduire dans ce temps de méditation. La première se trouve dans le livre de Job, chapitre 1er, versets 20 à 22. Je pense que tout le monde connaît un peu ce livre de Job. Cette longue méditation sur le thème « Qu'est-ce qu'il faut dire ?» de ce que les spécialistes appellent la théodicée, la manière dont Dieu gouverne les choses. Job est frappé durement, je dirais, pour sa part à lui, aveuglément. Il ne sait pas les raisons des malheurs qui s'abattent sur lui. Nous, nous savons, parce que le livre nous introduit dans la salle du trône divin et nous assistons à une espèce de conseil de guerre ou je ne sais pas quoi, où Dieu rassemble tous les fils de Dieu, ses forces angéliques. Et puis, il y a un intrus, le Satan. Le Satan, je dis bien parce que ce n'est pas un nom propre là, à ce niveau-là du texte. C'est une fonction, c'est l'accusateur, c'est l'adversaire. Il est là, puis Dieu l'accueille, et Dieu lui fait justice, c'est-à-dire qu'il répond à sa demande. On ne va pas méditer le livre de Job, je vous préviens, parce que c'est un sacré morceau. Mais on va lire maintenant à partir du verset 22, donc 20 et 22, après la description des malheurs, une première série de malheurs qui se sont abattu sur lui et sa famille. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu et je retournerai dans le sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Nous allons maintenant dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10. Nous lirons les versets 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. On prie. Oui, Seigneur, ouvre nos oreilles. Et que ce soit ton esprit qui nous conduise dans ce que tu as à nous dire à travers ta parole. Amen. Je suis toujours frappé de voir combien l'Évangile se trouve aux antipodes de la logique de notre époque de gagnant. Notre époque de la volonté d'être le plus fort, le plus riche, le plus beau, pas comme moi, non. Emmanuel Macron n'invitait-il pas il y a quelque temps tous les jeunes à devenir millionnaires ? Modeste avec ça, hein ? Comme si c'était un accomplissement de vie. Un million, ça ne suffit pas. Un milliard non plus. Parce qu'on ne sera jamais satisfait. Mais voilà, cet homme politique souhaite fixer un but à la jeunesse française. L'argent, le fric, le blé, le pèse. Il y en a encore d'autres ?
Le pognon.
Le pognon, voilà. Un bon chanteur, un bon musicien, n'est dans notre monde, n'est jugé que par le nombre d'albums vendus. On se moque pas mal de son sens artistique, de la qualité de sa musique. Non, il a vendu tant d'albums, alors c'est le meilleur. Partout, les chiffres tiennent lieu de vérité dernière. Les Jeux olympiques sont à cet égard un symptôme fort. Oui, nous vivons dans une société sans grâce. Une société de la performance et du mérite. Voilà dans quel monde nous vivons. Aujourd'hui, comme à son époque, Job pourrait servir de repoussoir. Personne ne désirant être un loser, un perdant. Je l'ai dit au début, Job ne connaît pas la raison de ce qui lui arrive, tandis que nous, lecteurs, le savons. Job est l'objet, l'enjeu d'un défi lancé par le Satan à Dieu. C'est comme si le Satan disait à Dieu, tu n'es pas capable de te faire aimer pour rien. Tout se paye. Tu n'es pas capable de te faire aimer gratuitement. Pour l'adversaire, la grâce n'existe pas. Et en cela, on voit combien son emprise sur notre monde est forte. N'est-ce pas ? Il est dans la logique de l'échange marchand, tout le temps. Et Job va démontrer le contraire. C'est-à-dire que par son attitude et ses paroles, Job persiste dans sa confiance. La seule mention que le Nouveau Testament porte de Job se trouve dans l'épître de Jacques, chapitre 5, le verset 11. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Une autre manière de parler de la grâce. Donc Jacques nous invite à travers l'histoire de Job à tirer leçon pour l'endurance, la persévérance, l'espérance envers et contre tout. Et en cela, nous sommes dans les pas de Abraham. Voilà. Tu auras une image. Espérant contre toute espérance, il crut. C'est vrai que la Bible ose poser des questions graves. Pourquoi les méchants réussissent-ils leurs projets ? Pourquoi connaissent-ils le bonheur ? Alors que les justes souffrent, à quoi bon prier si Dieu ne répond pas, se tait? Vous avez déjà entendu poser de telles questions, hein? Un jour, quelqu'un m'a dit, mais ça ne sert à rien de prier. Et j'ai répondu, c'est justement pour ça qu'il faut le faire. Parce que c'est un geste gratuit, un geste de grâce. De telles questions ont vraisemblablement inspiré la rédaction du livre de Job. Elles sont aussi présentes dans le psaume 73. Le psaume 73, le psalmiste s'interroge en voyant le bonheur des méchants. En français vulgaire, ce n'est pas une version de la Bible, hein, en français vulgaire, on dit « il n'y a que la canaille qui a de la chance ». Pas vrai ? Alors ça pose des questions. Je ne vais pas développer les raisons ce matin, Mais je vais me concentrer sur ce que Job dit au verset 21. Que dit-il ? Le Seigneur a donné, le Seigneur a pris, le nom du Seigneur est béni. Et je vous lis ce verset dans la version d'André Chouraki, parce qu'elle m'a, je la trouve remarquable. Voici ce qu'il dit. Le Seigneur a donné, le Seigneur a pris, le nom du Seigneur est béni. En tout cela, Job ne faute pas, il ne donne pas de fadeur à Elohim. Étrange. Dieu n'est pas fade. Ça veut dire que ce n'est pas pour rien. C'est ce qui est au cœur du poème de Job. C'est la question du pourquoi en deux mots. Dans quel but ? Pourquoi ? Servir Dieu n'a-t-il aucune saveur ? Est-ce en vain ? Est-ce que c'est pour rien, gratuitement, que Job craint Dieu ? C'est Satan qui pose cette question. Par les versets 21-22, Job témoigne du Dieu de la grâce. Il sort la foi du domaine du marchandage. Et ça, c'est un chemin que nous devons tous parcourir. Je pense à Jacob, quand il est parti, fuyant Ésaü, il pose à Dieu ses conditions. Si tu me bénis, si je deviens riche, en bonne santé, si tu me ramènes ici en paix, alors tu seras mon Dieu. Ça change quand il revient, justement. Quand il revient, Jacob a compris quelque chose. Et il dit aux gens qui l'accompagnent, « Ôtez les dieux étrangers qui sont parmi vous. » Et il a confiance au Dieu qui fait grâce. En parlant ainsi, ce texte annonce l'Évangile. C'est pourquoi j'aime rapprocher ce texte de celui de Jean, chapitre 10. C'est curieux parce qu'il y a une espèce de parenté du vocabulaire. Donner, ôter, déposer, reprendre. J'appellerais ça la feuille de route de Jésus. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus se fait Job pour nous. Il vient à son niveau. On aime souvent évoquer en Jésus le personnage royal, tout-puissant, glorieux. C'est vrai, c'est pas faux. Mais pour être cela, il a d'abord dû être Job avec nous. Vous connaissez la parabole du bon samaritain et la fameuse question que Jésus pose au chef de la loi. Il ne lui demande pas « Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait ?» Mais lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Autrement dit, place-toi pour comprendre du côté de la victime. Fais-toi toi-même victime avec lui. Et c'est ce que Dieu fait. C'est ça le merveilleux. Dieu se fait victime. Dieu se défait de sa vie. Il se vide. Il s'anéantit à la croix. Pour nous sortir de notre néant. Merci Seigneur. Jésus vient partager notre condition de vanité. Il vient partager l'absurdité de notre situation humaine, notre situation qui est décrite dans un texte du Nouveau Testament vous étiez sans Dieu, sans espérance dans le monde. » Eh bien, Jésus vient là. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» dit-il sur la croix. Un exégète faisait remarquer qu'on pouvait traduire un peu différemment « mon Dieu, à quoi m'as-tu abandonné ?» Comme si Jésus prenait tout à coup conscience pleinement de l'abîme profond, insondable, dans lequel il doit descendre pour être avec nous, pour être de notre côté. Tout à l'heure, on le rappelait, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais pour être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il faut qu'il soit avec nous dans l'abîme. Si j'osais, je dirais, il s'est abîmé complètement pour être avec nous. Dès lors, personne ne peut dire « je ne suis pas compris ». Il ne me comprend pas. Je suis seul à souffrir. Non. Les empreintes des pas de Jésus passent partout où nous passons. C'est merveilleux. Paul écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, au verset 9, il dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre. Ô combien !» De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. On chantait un petit chœur autrefois, j'étais pauvre, mais il m'a enrichi, étant riche, il s'est fait pauvre pour moi, mon sauveur bien-aimé, a expié mon péché. Oui, quelque chose comme ça. Hein. Oui. Là où Job subit sans comprendre la perte de toutes les bénédictions que Dieu lui avait accordées, Jésus accepte de manière libre et souveraine, par amour, de tout perdre. Il accepte de déposer, puis de reprendre sa vie. J'ai ce pouvoir, dit-il. J'ai le pouvoir de déposer ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Étrange parole quand même, qu'il nous faut bien entendre. Ce pouvoir n'est en rien une force triomphant de tout. Il ne s'agit pas d'un pouvoir magique ou d'un pouvoir qui écrase tout, qui triomphe de tout, non. Il s'agit d'une exousia en grec, c'est-à-dire un mandat. Il a été chargé par Dieu d'accomplir ça. Et ce serait même tout le contraire d'une puissance invincible. Paul le dit aussi, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Maintenant, il vit par la puissance de Dieu. C'est pour ça que les philosophes taxaient l'évangile de folie. Pour les Grecs, l'évangile est une folie. Pour les Juifs, c'est un scandale. Mais pour nous, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. C'est vrai, c'est la feuille de route de Jésus. C'est un mandat pour agir et pour accomplir la volonté de Dieu, une exousia en grec. Ce n'est pas la même chose que dunamis, la force, la puissance, mais c'est un mandat pour agir au nom du Seigneur. J'aimerais maintenant qu'on lise dans le chapitre 13 de Jean les 17 premiers versets. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le projet de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, déposa ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais. Jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, j'ai envie d'ajouter à ce prix-là. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. » Il s'agissait là des conditions pour manger la Pâque. « Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il les reprend, il a déposé ses vêtements, il les reprend comme il a déposé sa vie et il l'a reprise. C'est les mêmes verbes. Il se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Certains mouvements chrétiens ont pris à la lettre cette histoire du lavement des pieds. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Que vous fassiez comme je vous ai fait. C'est-à-dire que vous acceptiez de descendre, de vous mettre au niveau du plus vil des esclaves, non pas par masochisme, mais pour suivre la feuille de route de Jésus. Encore une fois, essayons de mesurer l'abîme qui sépare l'Évangile de la sagesse de notre monde et trouvons en Jésus la source et l'exemple de notre fidélité. Amen. Voilà, c'est dit.